auditeurs de Radio MDM. Vous êtes dans l'émission Leur histoire est aussi notre histoire, consacrée à l'histoire et au patrimoine du Marsan. Voici maintenant une série d'émissions qui sont consacrées à la ville de Roquefort. Peut-être serez-vous surpris que l'on parle de Roquefort, qui aujourd'hui ne se trouve pas particulièrement en Marsan, du moins sur le plan administratif. Roquefort fait en effet partie, aujourd'hui, de la communauté de communes des Landes d'Armagnac. C'est une division contemporaine, évidemment. Dans l'histoire, eh bien, les choses se sont passées différemment. Et pendant des siècles, Roquefort a fait partie donc de la vicomté de Marsan, donc du Marsan. Pour quelles raisons les vicomtes ont-ils choisi le site de Roquefort pour bâtir leur premier bourg? Bon, évidemment, nous n'avons pas leur témoignage. Mais on peut tout à fait imaginer les raisons qui ont présidé à un tel choix. N'oublions pas que toute cette région, c'est quand même une région, essentiellement une région de sable, qui n'est pas forcément très riche et qui dispose de peu de pierres. Or, Roquefort a cet avantage d'être bâti sur un relief formé de couches calcaires de différentes origines qui remontent d'ailleurs pratiquement à l'ère secondaire, c'est-à-dire qui ont plus de plusieurs centaines de millions d'années. Ces calcaires dont le dénivelé peut atteindre jusqu'à 30 mètres en certains endroits, ces falaises de calcaire sont trouées d'un certain nombre de grottes. Elles ont certainement servi d'abri aux populations à différents moments d'insécurité. Alors, la première raison est probablement celle-ci. Un promontoire de pierre qui peut être intéressant effectivement pour bâtir un bourg, qui sert de matériaux pour la construction. Et c'est probablement avec ces pierres de construction que l'on a bâti les premiers châteaux, le château de Marsan, puis plus tard, au milieu du XIIIe siècle, le château de Foix. Voilà. Et peut-être d'ailleurs des éléments anciens de l'église Notre-Dame de Roquefort. Après, il y a certainement des raisons économiques, encore une fois. Comme pour Mont-de-Marsan, le confluent permet de mettre en contact des régions. Deux régions, les régions de la Douze et de l'Estampon, dont les productions peuvent être complémentaires. Et puis, notamment, chose très importante, la région de Roquefort, de ce fait, est en relation directe avec la vicomté de Gabardon, qui n'est pas très éloignée de cette région. Aujourd'hui, nous allons évoquer le site qui est probablement à l'origine de la fondation de la ville de Roquefort, c'est-à-dire le château de Marsan. Car c'est à l'extrémité du confluent que les vicomtes ont fait édifier le château de la famille des vicomtes et de la branche cadette des Marsan. C'est le château de Marsan dont seul subsiste aujourd'hui une tour qui abrite une peña. Alors, quand a-t-il été élevé? C'est difficile à dire. La seule certitude, c'est qu'il existe en 1108, donc au tout début du XIIe siècle, puisque nous en avons un témoignage dans un acte. Roquefort existe en tout cas en tant que petit bourg, car le vicomte de Marsan, Loup Aner, vous savez, le père de Pierre, le fondateur de Mont-de-Marsan, donc à la même date, en 1108, le vicomte Loup Aner donne à l'abbaye de la Sauve-Majeure un sol à Roquefort, comme cela est écrit dans le texte. Roquefort, c'est-à-dire le rocher fortifié. C'est cela le sens de Roquefort. Et donc il donne ce sol, eh bien, visiblement pour y bâtir un prieuré, puisqu'il parle effectivement de bâtir une maison, et cette maison, en fait, c'est un prieuré, et sans doute l'église qui va avec. Alors, ce vicomte Loup Aner a déjà favorisé cette grande abbaye bénédictine, car il avait fait un autre don à l'abbaye, un emplacement à Perquis pour y construire un prieuré également. Alors nous ne savons pas s'il existait déjà une petite église à Roquefort avant 1108, mais c'est tout à fait probable car les vicomtes sont quand même chrétiens depuis le début du XIe siècle. Il leur faut bien une chapelle pour prier. Peut-être en avait-il une tout simplement auprès du château, car c'est généralement de cette façon que les choses se passent. Peut-être ont-ils fait édifier une église un petit peu plus tard pour les paroissiens à l'emplacement de l'actuelle. Mais on n'en sait rien, car pour cela il aurait fallu faire des fouilles archéologiques, avoir d'autres éléments, et nous ne les avons absolument pas. Donc, en tout état de cause, on ne peut faire que des hypothèses. Mais revenons au château de Marsan. Malheureusement, nous n'en avons aucune description, ni représentation, sauf sur une vue de 1612 qui est due au dessinateur flamand Joachim du Wirth, qui a représenté de nombreuses villes d'Aquitaine ou bien de villes d'autres régions. Le lieu choisi pour la fondation de Roquefort, c'est donc celui du confluent, et le château se dressait donc sur ce socle rocheux, entouré au sud et à l'ouest par la Douze et l'Estampon, et au nord et à l'est par un fossé qui rejoignait ces deux rivières, et qui était donc rempli d'eau. Ce fossé était appelé le Croc, c'est-à-dire en gascon le fossé, à ne pas confondre avec la rivière du Croc du même nom qui traverse Roquefort et Arrue à l'ouest. Le château de Marsan était relié à la rive droite de l'Estampon par une passerelle et cela donnait accès à une tour crénelée qui défendait les abords du château, ce qu'on appelle la tour de Darrecastel, c'est-à-dire la tour de derrière le château. Alors certains auteurs ont parlé d'un pont-levis entre la tour et le château, mais c'est matériellement impossible qu'un pont-levis puisse effectivement enjamber la largeur de l'Estampon. Probablement il s'agissait d'une passerelle qui pouvait éventuellement être abattue en cas par exemple d'attaque. Alors aujourd'hui encore, ce château se dresse sur une éminence. Pour accéder à la tour où se trouve la Peña, on doit monter sur une pente assez raide qui révèle bien justement cette éminence sur laquelle il a été édifié. Ensuite, après avoir franchi une porte percée dans une muraille épaisse, on entre dans la cour juste en face de la tour. Ces dispositions sont tout à fait conformes à ce que l'on connaît des petits châteaux de cette époque en Gascogne. La tour en question avait une fonction de surveillance, car visiblement, elle est beaucoup trop petite pour pouvoir servir d'habitation à qui que ce soit. Le seigneur et sa famille, eux, résidaient dans un bâtiment qui a été détruit depuis et qui comportait au rez-de-chaussée une grande salle de réception, la aula, et à l'étage, les chambres. Malheureusement, cette partie, comme je vous le disais, n'a pas été conservée. Elle devait se situer sans doute à l'est de la cour, car on voit bien que subsiste à cet endroit le départ de ses murs. Alors, le château de Marsan a abrité le lignage des Marsan jusqu'à la fondation de Mont-de-Marsan. Et c'est là, sans doute, qu'est né le seigneur troubadour Arnaud Guillaume de Marsan, dont nous avons parlé la dernière fois. Et peut-être jeune a-t-il même assisté à des fêtes. Ses parents ont peut-être reçu des troubadours dans le château de Marsan, ce qui lui a donné le goût de la poésie. Mais ce qui est certain, c'est que c'est en partie là qu'il a reçu une bonne éducation, comme ses ancêtres, puis à leur tour, évidemment, ses enfants. On ne sait pas grand-chose du devenir de ce château de Marsan, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ce que l'on sait, c'est que un siècle plus tard, le 22 avril 1198, la vicomtesse de Marsan et comtesse de Bigorre, Pétronille de Comminges, fait donation complète du château à son petit cousin, qui est un autre Arnaud Guillaume de Marsan, sans doute le fils du troubadour. Alors si vous vous souvenez, cette Pétronille de Comminges, c'est donc la vicomtesse de Marsan qui, la pauvre, s'était mariée non seulement quatre fois, mais avait été répudiée, notamment par son mari qui était Bernard de Bigorre, qui voulait essentiellement mettre la main sur le Comminges. Désormais, donc, le château de Marsan n'est plus la propriété indivise entre les vicomtes et la famille de Marsan. Il va donc devenir l'entière propriété de la branche cadette. Il sera alors le seul château de la ville pendant 50 ans, jusqu'à l'édification du château de Foix, appelé aussi château de Pencadet au milieu du XIIIe siècle. Le château de Marsan va ensuite connaître bien des vicissitudes durant le XIIIe siècle, lors des révoltes du vicomte de Marsan, Béarn, Gaston VII contre le roi-duc Édouard II. Il est difficile de savoir d'ailleurs si les co-seigneurs de Roquefort y résident régulièrement ou non, faute de documents. Il est certain qu'à partir du XIVe siècle, les vicomtes de Marsan-Béarn, devenant comtes de Foix, n'ont pas dû s'y rendre très souvent. Ils y ont sans doute installé des officiers, une petite garnison chargée de le garder. Mais voilà que la catastrophe se produit en 1570, car alors les seigneurs de Roquefort sont convertis au protestantisme. Les guerres de religion ont en effet beaucoup affecté le Marsan, qui est lié au Béarn. Béarn dans lequel Jeanne d'Albret, la vicomtesse de Béarn et reine de Navarre, convertie à la nouvelle religion, a fondé un important centre religieux à Orthès. Et ce centre religieux a eu beaucoup d'influence, notamment sur la noblesse, mais aussi une partie de la population, que ce soit en Béarn ou en Marsan. Et donc, les habitants du Béarn et du Marsan vont souvent souvent se diviser, même à l'intérieur des familles, entre les deux religions. On sait par exemple que le co-seigneur de Roquefort, Pierre de Marsan, est protestant, donc au moment où, en 1570, une armée de catholiques s'empare de Roquefort. Elle va vider le château de ses meubles, elle le met à sac, elle brûle l'ensemble des archives. C'est une perte absolument irréparable, car tous les actes médiévaux de la famille étaient alors abrités au château. Et c'est là que donc Françoise de Marsan, épouse de Ponce de Ponce, seigneur de la Case, qui est donc cousine du roi Henri IV, va évoquer le sac du château dans une lettre qu'elle adresse à son cousin quelques années plus tard, à la fin du XVIe siècle, où elle lui explique que tout a été brûlé dans le château, qu'il n'y a plus rien. Elle a perdu absolument toutes ses archives. Et lorsqu'en 1680, donc, les descendants de Ponce vendent le château aux seigneurs de La Salle, qui sont aussi seigneurs de Canenx, ce château n'est déjà plus qu'une ruine. Ses pierres se trouvent certainement aujourd'hui intégrées dans tous les édifices environnants. Et de sa splendeur passée, eh bien, il ne reste que la tour dans la cour et une partie du mur d'enceinte que l'on voudrait effectivement bien davantage voir mise en valeur. Alors juste pour conclure un petit peu sur cette partie consacrée au château de Marsan, il a donné naissance au premier bourg de Roquefort. Roquefort est un bourg castral. Alors on appelle souvent Roquefort ou Mont-de-Marsan-Castelnau. Ils sont plus que cela. Ce sont des bourgs castraux car ils ont été édifiés par une puissance seigneuriale forte. Alors pour terminer ce premier volet, je vous propose une chanson courte de Guillaume de Machaut, « J'aime sans penser », qui est extraite du Jugement du roi de Navarre par l'ensemble Gilles Binchois et Dominique Vélard, tiré de l'album de Machaut, « Sacred and Secular Music ». Voilà dans le second volet de cette émission, leur histoire est aussi notre histoire. Au cours du premier volet, j'ai parlé de Roquefort et de son château du Marsan, qui est un vieux château du XIIe siècle, édifié au confluent entre la Douze et l'Estampon. Ce château a généré le développement d'un habitat dont nous ne connaissons absolument rien, malheureusement, mais qui s'est étendu probablement vers le nord. Et ce premier bourg a constitué le bourg castral. Alors maintenant, nous allons parler donc de l'édifice qui se trouve à l'opposé du château de Marsan, tout à fait au nord, à l'extrémité de ce premier bourg castral, il s'agit de l'église Notre-Dame de Roquefort, qui s'élève environ à 300 mètres au nord du château de Marsan. Et c'est un très très bel édifice qui, depuis sa fondation au début du XIIe siècle, a connu bien des agrandissements, des transformations entre le XIIIe et le XVIIe siècle, voire d'ailleurs encore le XVIIIe ou le XIXe siècle pour la décoration intérieure. Alors, elle a été l'objet d'une restauration longue et minutieuse, et aujourd'hui, le résultat est absolument splendide. Je vous conseille donc, si vous en avez l'occasion, d'aller visiter cette église, dont la présentation est également faite par un certain nombre de panneaux explicatifs qui vous diront quelles sont les transformations qui ont été menées au cours des siècles. Alors, tout d'abord, un premier point. Lorsque le vicomte de Marsan donne un sol, alors c'est-à-dire un sol, c'est-à-dire une terre, dans Roquefort, qu'il appelle Rocafort. En latin, donc, je vous rappelle que c'est Rocafort, le rocher fortifié. Donc, lorsque le vicomte de Marsan donne un sol à l'abbaye de la Sauve-Majeure pour y fonder un prieuré, c'est donc là que s'élèvera la future église, et c'est à cet emplacement-là qu'elle a été construite. Or, comme je vous le disais, il y a environ 200 à 300 mètres entre le château et l'église. Ce qui veut dire que si les vicomtes n'ont pas donné un sol plus proche du château, c'est peut-être parce que déjà, une population nombreuse avait commencé à se fixer au nord du château de Marsan et que peut-être c'était le seul emplacement qui était alors disponible. Ce n'est qu'une hypothèse, mais enfin, pourquoi pas ? L'église Notre-Dame s'est donc élevée face au pont qui traverse l'Estampon, mais probablement qu'à l'époque de sa fondation, il ne devait pas y avoir de pont à cet endroit-là. Le pont a été édifié plus tard, il devait y avoir sans doute un pont de bois qui s'élevait un petit peu en amont de l'actuel, et c'est plus tard, sous Napoléon, que le pont de pierre a été édifié. Alors, quand la construction de l'église Notre-Dame de Roquefort a-t-elle démarré ? Combien de temps cela a-t-il pris ? Quels étaient tous les corps de métier qui ont contribué à son édification, qui était l'architecte? Autant de questions qui sont absolument sans réponse. D'ailleurs, pour la plupart des édifices des Landes et d'une façon générale d'ailleurs de l'Aquitaine. C'est assez difficile à dire car nous n'avons encore une fois aucun texte et aucun document qui évoque notamment les étapes de la construction de la première église, car telle que vous la voyez, c'est une église qui est relativement importante par ses dimensions et son volume. Elle est le résultat des agrandissements successifs qu'on a opérés pendant des siècles. Mais à l'origine, ce devait être quand même un petit édifice. Les éléments les plus anciens datent de la première moitié du XIIe siècle. On peut penser que, d'abord, la forme de l'abside, encore une fois, comme dans d'autres églises, la forme du chevet en trèfle montre bien la filiation entre cet édifice et l'abbaye de la Sauve-Majeure, qui est une abbaye bénédictine. Je vous avais déjà parlé de cet élément caractéristique pour l'église de Saint-Pierre-du-Mont, et on va le retrouver dans d'autres édifices qui sont liés également aux bénédictins. L'église de Roquefort a pour patronne Notre-Dame. Or, l'abbaye de la Sauve-Majeure est vouée au culte de la Vierge Marie. Et donc, très nombreux sont les filiales et les prieurés qui sont dédiés à Notre-Dame. Le culte de la Vierge Marie s'est développé, en effet, de façon très importante en Occident, à partir de la fin du XIe siècle. Et sur le plan religieux, elle est notamment l'inspiratrice de l'amour courtois dont nous avons parlé au cours de la précédente émission. Jusqu'à ce que l'église de Roquefort soit construite, même si c'était au départ un édifice modeste, où les habitants allaient-ils donc prier ? C'est une question qu'on peut se poser quand même, car même s'il n'y avait pas énormément d'habitants, ces habitants devaient quand même être chrétiens. Certains se rendaient peut-être à la chapelle du château. Je pense qu'il y en a eu une, certainement, au moins jusqu'au XIVe siècle. Et d'autres, peut-être, allaient-ils à l'église de Sarbazan, qui est distante simplement de 2,5 km. Je vous ai dit que la petite église édifiée dans cette première moitié du XIIe siècle devait sans doute être simple. Une nef pour les paroissiens, évidemment, avec ce chevet en forme de trèfle, c'est-à-dire une abside centrale et deux petites absidioles. Alors c'est donc un plan classique. Le bâtiment du prieuré, lui, a dû s'élever au nord de l'église, mais nous n'en avons pas de traces visibles en raison des transformations ultérieures. Alors que reste-t-il de cette première église ? Eh bien, il reste surtout la petite absidiole sud, qui est une petite merveille, qui est magnifique, simple, mais très belle. Et elle montre que cette première église a été édifiée avec beaucoup de soin, avec de belles pierres régulières. On ignore en tout cas quand ni pourquoi l'église et le prieuré passent de la Sauve Majeure à l'abbaye de Saint-Sever, qui va devenir donc, jusqu'à la Révolution, le patron du prieuré et de l'église. Mais il y a bien des questions évidemment qui restent posées dans le domaine de l'histoire, en particulier du Moyen-Âge. Sur l'histoire de l'église elle-même, nous n'avons pas énormément d'informations. En tout cas, pendant le Moyen-Âge, nous ne savons rien effectivement du rôle que l'église a pu jouer. Il a certainement été important, mais c'est tout ce que l'on peut dire. En revanche, lorsqu'on arrive au XVIe siècle, en 1569, au moment des guerres de religion, l'église a été en partie brûlée par les troupes protestantes du capitaine Toiras, qui ont pillé les ornements de l'église, qui ont cassé les cloches et donc qui ont causé pas mal de dégâts. Les bâtiments quand même de l'église et du prieuré ont été relevés de leurs ruines entre 1569 et 1587, grâce notamment à un frère Cosme de Lafitte, qui a beaucoup œuvré dans ce sens. On sait cependant que le prieuré, bien qu'ayant traversé la tourmente, a réussi à se relever, puisque de très nombreuses fondations pieuses attestent de la vitalité religieuse de la ville de Roquefort. Les fondations pieuses, ce sont des fondations qui sont créées par des laïcs, mais parfois aussi des ecclésiastiques, notamment un prêtre, qui vont payer pour dire des messes anniversaires du décès, par exemple, d'un membre de leur famille. Et quelquefois, ils payent d'une façon très importante, ils salarient pratiquement un prêtre pour dire ces messes. Et nous en avons un certain nombre d'exemples, pratiquement 7 ou 8 pour la ville de Roquefort. Après les guerres de religion, malheureusement, la ville de Roquefort va connaître une nouvelle période sombre. En 1652-1653, Roquefort prend parti au cours de la Fronde, qui est la dernière grande révolte féodale contre le jeune Louis XIV. La ville s'est en effet rangée aux côtés de la noblesse révoltée. Elle est donc occupée par les troupes du colonel Balthazar et les soldats se sont installés dans l'église qu'ils ont beaucoup dégradée. Ils ne l'ont pas ruinée, mais ils l'ont considérablement dégradée. C'est en 1665 notamment que, du coup, l'abbaye de Saint-Sever va laisser cette église et le prieuré qui vont être unis aux religieuses bénédictines de l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Alors, des réparations relativement importantes des bâtiments ont eu lieu tout au long des 18e, 19e et 20e siècles parce que les bâtiments avaient été relativement dégradés. Au sud de l'église, il existe un très joli petit édifice, la chapelle Saint-Joseph, qui appartenait à la famille de Camon-Talence en 1752. Alors, il y a des traces d'inhumation dans la chapelle, donc cela laisse supposer que c'était un édifice à usage funéraire, d'autant que l'un de ses membres, Pierre de Camon, avait épousé en 1558 Roquette de Marsan, fille cadette de Jean de Marsan, seigneur de Roquefort. Mais bien que surnommé chapelle Saint-Jacques, ce petit édifice avait bien pour patron Saint-Joseph, et nous en avons un témoignage qui est celui de la visite de l'évêque d'Aire en 1752. C'est un très joli petit édifice qui date probablement de la fin du XVe siècle. C'est un bâtiment en pierre de taille avec un très beau portail central en pierre avec une double accolade ornée de choux frisés et de colonnettes qui sont extrêmement répandues à la fin du XVe siècle. À l'intérieur, une seule pièce dont on a restauré d'ailleurs la voûte d'ogive mais qui aurait quand même besoin de nouveau de l'être. Voûte d'ogive rayonnante autour d'une grosse clé de voûte centrale. C'est véritablement un très beau travail. Nous allons maintenant terminer cette émission et nous quitter. Je vous rappelle que vous pouvez donc faire la visite de cette très belle église Notre-Dame de Roquefort. Et pour rester un petit peu dans la note de l'édifice, je vous propose un très beau chant du Moyen-Âge qui s'appelle Santa Maria Strella d'Odia.
Santa Maria.